Les multiples guerres et l'insécurité en général ont un impact négatif sur les commerces, l'agriculture et l'élevage à l'est du pays. Cette question était au centre d'une rencontre à Goma qui a réuni une soixantaine d'opérateurs économiques, des officiels membres du gouvernement et des membres des associations paysannes œuvrant dans le secteur de l'agriculture et l'élevage dans la région des Grands Lacs. Ces derniers encouragent l'aboutissement du processus Amani pour le rétablissement de la paix, une condition sine qua non pour le développement du commerce, de l'agriculture ainsi que de l'élevage dans la région. Nous en parlons avec Aliena Alipanagama. Aliena, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, quelle est la problématique posée par ces agriculteurs et éleveurs des pays du Grand Lac d'Afrique?
Oui, JR, écoute, d'abord, il convient de savoir qu'il s'agit plus particulièrement des agriculteurs et éleveurs burundais, ougandais, rwandais et congolais qui posent des problèmes. Des problèmes liés notamment à l'insécurité dans la région qui les empêchent à bien mener leurs activités de production agricole. Ils ont évoqué plusieurs facteurs à la base des difficultés d'échange et à la baisse de production dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Et pour les représentants de la RDC, il a évoqué plus le cas de la province du Nord Kivu, qui est vraiment une illustration éloquente parmi d'autres problèmes qu'on connaît ici dans le Nord Kivu. Et écoutons, moi, Gédéon Paloukou, il est du centre de développement rural des Kibututu, il parle de la situation des paysans des Rutshuru.
La sécurité a paralysé toutes les activités au niveau de la base. D'abord, les champs fertiles ont été abandonnés. On ne peut plus les fréquenter parce que les bandes armées constituent leur poche de résistance tout autour de ces milieux-là de production, de potentialité en production. Les femmes ont peur d'être victimes des actes de viol et à la récolte, ces bandes armées sortent de la brousse pour récolter tout et ils rentrent dans la brousse et ça sont des difficultés.
Alors, Aliena, est-ce que la situation est la même pour d'autres pays des Grands Lacs, par exemple au Burundi?
Bon, oui, pour Burundi, l'insécurité a causé une baisse sensible de la production des denrées alimentaires de base, ce qui est plus consommé par la population burundaise. Et malgré les calmes apparents au pays, les cultivateurs burundais n'ont pas réussi à atteindre les niveaux de production comme c'était il y a 10 ans auparavant. Et c'est là à cause des situations qu'ils ont connues, les situations de guerre qu'ils ont connues. Et suivant ici Alexis Ntamavukiro, il est de l'ONG rural et IFDC au Burundi, il en donne quelques statistiques pour illustrer des cas et des difficultés de la position des récoltes.
Nous avons que les céréales ont baissé de 306 à 297, les tubercules de 1485 à 1296 et les bananes et plantains à 1527. C'est-à-dire que les effets de la guerre sont déjà manifestés, d'abord par l'absence de progrès. Normalement, comme vous le savez, on pouvait avoir un peu de croissance minimum de 10%, mais nous avons déjà un déclin à cause de la guerre et de l'insécurité. Et 10 ans après, nous n'avons pas encore de progrès.
Voilà, c'est dommage. En Ouganda, Aliena, le pays n'a pas connu de guerre ces 10 dernières années, comme c'est le cas en RDC et au Burundi. Quels ont été les problèmes posés par leurs délégués à cette rencontre?
Bon, les Ougandais, eux, ont évoqué plutôt les problèmes des tracasseries et de la multiplicité des taxes aux frontières avec la RDC, et comme facteur vraiment lié aux difficultés des échanges de produits. Innocent Bisangwa, il est éleveur ougandais, il traverse la RDC pour vendre le lait, et il explique ses difficultés, mais il explique en Swahili, nous allons quand même l'écouter, on pourra peut-être dire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit.
Kwa upande ya Kongo wanajaribu kuuza hapa maziwa kutoka Kisoro, wanauliza maneno mengi sana. Kuna tax, hiyo tax ile ambayo watakuuliza leo sio watakuuliza wiki ijayo. Kuna ofisi nyingine OCC, hiyo kama ya quality, wanauliza dola kila mara kwa kila kitu chochote. Kuna personal lipa ya gari. Kwa mtu anataka kufanya biashara na Kongo kama ya maziwa kama nini, profit yako inapotelea pale pale.
Alors, une curiosité, Aliana, qu'est-ce qu'ils ont, pris comme résolution finale à tous ces problèmes évoqués par les uns et les autres?
Bon, peut-être notre invité de tout à l'heure, il sera mieux placé pour répondre vraiment en profondeur. Et tout ce que je peux dire pour le moment est que tous, hein, tous ceux qui se sont rencontrés, Burundais, Ougandais, Rwandais, Congolais, ont souhaité le retour d'une paix durable dans la région, en vue de dynamiser, redynamiser les activités agricoles dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Et selon Sophie Connet, qui était facilitateur et elle est secrétaire à la COMESA, la communauté internationale, demeure optimiste quant à l'issue heureuse de cette rencontre d'échange d'idées.
Voilà, moi que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on s'arrête là à Liana.
Oui, autre chose à ajouter, tout à l'heure, JR, tous ces Burundais, Congolais, Ougandais se retrouvent maintenant en ce moment pour une foire où ils exposent leurs denrées en signe symbolique de ce qui pourrait augmenter et produire plus pour l'échange intercommercial entre les pays des Grands Lacs.
Merci et bonne fin de semaine.
Merci à vous, parrain, et à tous les auditeurs.
Okapi, fréquence de la paix.
Aloïs Teguera, vous êtes manager pour Paul Institution, Institute. Vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a motivé votre institution à réunir ces cultivateurs, à réfléchir autour de leurs activités?
Bon, écoutez, c'est un problème, c'est un programme que nous avons démarré déjà en 2006, en collaboration avec la coopération des amis du FID, COMESA, qui est l'organisation qui gère les pays de l'Est de l'Afrique, et l'USAID. Hein. Et l'idée du départ était vraiment assez simple. L'idée du départ, c'est que nous sommes sûrs que si nous attaquons le problème de la paix à partir des activités des hommes d'affaires, des cultivateurs, de tout ce qui produisent les revenus, ça, il y a une chance aussi que quelque part cette communauté puisse contribuer énormément dans les avancées de la paix. Donc, le travail du départ a été celui d'identifier en fait le flux du commerce entre les pays ici, notamment l'Est du Congo, le pays de l'Est, mais aussi le pays d'Europe, etc. Et puis finalement, nous nous sommes rendus compte au cours de notre étude qu'en fait, si on pouvait faciliter la communauté des affaires, donc les hommes d'affaires, si on pouvait faciliter leur travail, effectivement, ils peuvent générer pas mal de revenus de leur côté, et les revenus peuvent être investis en termes de l'emploi. Donc, en fait, l'idée est très simple. Si on crée de la richesse peut créer des revenus, les revenus peuvent créer de l'emploi, l'emploi va réduire la pauvreté. C'est ça l'idée du départ qui nous a motivés depuis.
Alors, 2 ans plus tard, quelles sont les avancées qu'on peut quand même inscrire dans votre actif ou dans l'actif de ce projet?
Écoute, les avancées, déjà c'est le fait qu'on s'est rendu compte comment le système fonctionne. Dites-vous, au début, quand nous avons commencé ce travail, nous tous aussi, comme tout Congolais moyen, on se disait, mais écoute, de toute façon, on fraude, on fait la fraude, etc. Mais on s'est rendu compte aussi que nos services étatiques n'aident pas vraiment les commerçants. Nous avons fait une étude, nous avons découvert une nomenclature de taxes qui sont liées à l'exportation, par exemple. Vraiment, le Congo reste l'un des pays où les taxes à l'exportation sont très élevées. Alors, si nous voulons vraiment aider à ce que le pays se relance aussi, nous devons encourager les Congolais à pouvoir exporter. Et pour pouvoir exporter, il faut pouvoir effectivement faciliter à ce que les Congolais puissent exporter en toute quiétude et même, il faut les aider à le faire. Donc, nous devons vraiment dépasser la logique de voir un commerçant comme un voleur, mais de le voir comme un acteur important qui peut, si on facilite son travail, il va créer la richesse va créer de l'emploi va réduire la pauvreté. C'est ça l'idée principale.
Mais on sait tout de même qu'au travers des commerçants, il peut y avoir aussi source de l'insécurité, parce que juste les nomades peuvent véhiculer aussi un venin de haine. Est-ce que vous avez pu sensibiliser tous ces opérateurs économiques autour de cette importance de la paix?
Écoutez, le forum que nous venons de tenir ici à Goma, effectivement, était intitulé Commerce, sécurité et agriculture. Au début, on voulait avoir surtout sous forme d'une thématique basée autour de l'agriculture. Nous nous sommes dit à Pôle Institut que ça ne marchait pas parce que, en fait, la plupart des fermiers, la plupart des cultivateurs, nous avons à peu près 800 000. Des placés internes qui, depuis des ans, sont dans des camps de fortune et n'arrivent même pas à travailler. Ils ont raté des saisons culturelles pendant 2 ans. À ce moment-là, parler de l'agriculture au vu de l'insécurité, c'est tout à fait illusoire, c'est tout à fait, ça ne fait pas de sens. Donc, nous, ce forum de Goma, on a voulu l'accès sur effectivement comment on peut essayer à ce qu'on trouve une volonté politique, laquelle volonté politique peut travailler à ce que nous puissions vraiment recouvrir la sécurité à l'est du Congo pour permettre non seulement aux déplacés qui sont à l'extérieur de nos frontières, mais aussi ceux qui sont les déplacés internes, qui regagnent leur village et qui recommencent le travail. C'est ça l'importance aussi de ce forum.
Oui, ben, après avoir auditionné les problèmes des uns et des autres, quelles ont été les résolutions prises pour redynamiser la production agricole et ainsi faciliter les échanges de ces produits entre les pays du Grand Lac?
Une avancée qui est tout à fait certaine pour tout le monde. On ne peut pas parler du démarrage économique, de la relance des activités si nous n'avons pas vraiment la sécurité à l'est du Congo. Ça, c'est un premier constat. Pour qu'il y ait la sécurité, le deuxième constat a été au cours de nos travaux, que vraiment, il est important, il est impératif aujourd'hui qu'il y ait une volonté politique qui prend les choses en main. Parce qu'on se rend compte que sans la volonté politique, c'est vraiment difficile de pouvoir arriver à quoi que ce soit.
Alors, quelle nature d'aide ou d'appui compte faire les institutions internationales qui ont financé la rencontre? Là, je fais allusion à l'USAID, COMESA, DFID et autres.
Mais écoutez, il y a une dynamique régionale qui est en train de se faire. Notamment, par exemple, on avait invité les commerçants de l'Ouganda, les commerçants du Rwanda, du Burundi, etc. Mais on s'est rendu compte que pour qu'il y ait de l'investissement, pour qu'il y ait un flux, le flux de produits dans la région du Congo vers les autres pays, les autres pays vers le Congo, là encore, la sécurité, c'est la base de tout. D'abord, une sécurité judiciaire pour que celui qui veut vraiment investir n'ait pas une tracasserie judiciaire. Et du moment qu'il est dans le pays, il faut vraiment une sécurité physique de bien de ses biens, mais aussi de sa personne. Voilà l'essentiel. Et là encore, nous revenons à la case de départ. Nous avons besoin d'une volonté politique qui peut vraiment travailler pour qu'on recouvre la paix à l'est du Congo.
Et comment est pratiquement organisé le suivi de ce programme sur les terrains? C'est au quotidien, mensuellement, trimestriellement ou annuellement?
Bah écoute, c'est toute une dynamique qui s'est mise en place. Par exemple, au mois d'avril, on avait fait rencontrer les opérateurs économiques de l'Est du Congo avec ceux des pays voisins. Et là, il y a même une initiative qui est en cours. Entre eux, ils se sont mis ensemble pour démarrer une banque régionale qui serait basée à Ovira. Ça, c'est vraiment l'initiative des commerçants qui naît de ce forum. Il y a encore d'autres initiatives qui sont en cours. Et ce qui est très important, plus on met les gens ensemble, et les gens qui ont un intérêt commun, ces gens-là vraiment peuvent aussi travailler fort, mais aussi participer énormément pour que finalement on commence à approcher le problème de la problématique de la paix ici, non pas avec des discours vides, mais avec des discours des gens qui ont un intérêt à ce que vraiment tout se passe comme il faut, que la paix soit vraiment une priorité dans la région pour que effectivement ces intérêts comme qui se croisent se consolident davantage.
Oui, ben la problématique de la paix, ce n'est pas une mince affaire. Et je crois que pour y arriver, il faudrait quand même c'est tout un processus, hein, et ce processus demande des moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers et tant d'autres. Ben alors, à votre niveau, une question de curiosité, est-ce que c'est un projet durable ou carrément vous avez déjà eu à bien chronométrer les choses?
Mais c'est tout à fait un projet durable, mais comme vous venez de le dire vous-même, la problématique de la paix, c'est assez compliqué. Mais aussi, c'est assez compliqué pour une seule raison. Jusqu'à présent, on ne sent pas vraiment qu'il y ait une volonté politique pour y arriver. Du moment où il peut y avoir des forces vives sur le terrain, qui, sur base des intérêts communs, sont en train de travailler pour, je crois qu'ils peuvent quand même contribuer à ce que cette volonté politique, finalement, jaillisse quelque part. Parce que, finalement, comment on arrive à la paix? À la paix sans la volonté politique. C'est ça le grand problème.
Mais alors, parce que nous parlons de cette problématique, mais nous savons également qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les cultivateurs qui sont impliqués dans cette démarche par rapport au programme que vous avez pu lancer depuis 2006, est-ce que vous pensez également au renforcement de capacités? Parce que dans bien des cas, ces agriculteurs ou ces cultivateurs ne sont pas pris en charge, et surtout du point de vue formation, parce qu'il faudrait, ce n'est pas un secret, vous remarquerez peut-être sur le plan technique, Burundi est un peu en avance par rapport au Congo, ou le Congo est un peu en avance par rapport au Rwanda. Ben alors comment réunir ensemble pour qu'ils aient un même point d'intercession de formation?
Mais écoute, moi, je ne serai pas ici pour donner des points qui est en avant et qui est derrière, mais je vais vous raconter une petite histoire. Avant-hier, nous étions dans une réunion. Alors, il y a un commerçant d'ici qui est le président du producteur de haricots. Il dit, nous avons des difficultés parce que quand nous voulons aller vendre nos haricots au Rwanda, nous avons des difficultés du côté de la frontière du Rwanda parce que là, ils nous demandent des taxes. Le Rwandais qui était dans la salle, il dit, écoute, ça c'est très clair, parce que nous sommes un État aussi qui fonctionne parce que nous percevons des taxes, et les mêmes taxes que nous utilisons pour non seulement payer ce que nous devons payer, mais aussi pour le développement du pays, les routes, etc. Donc, déjà, vous voyez, entre les opérateurs, il y a déjà des visions différentes qui sont en train de démerger, et c'est cela que nous sommes en train de travailler, parce que, en fait, tous les Congolais, quoi où ils sont prêts à payer les impôts, tant qu'ils savent aussi que ces impôts sont réinvestis dans les services publics. Voilà,
oui,
très fort et qui est partagé par tout le monde.
Mm-hmm. Vous avez du pain sur la planche. Hein. Là, il faudrait quand même le reconnaître. Si jamais ce projet marchait, je crois que ça donnera de bons résultats. Aloïs Teguera, nous rappelons que vous êtes manager for Paul Institute. Merci d'avoir été des nôtres. Et on va faire le suivi pour voir comment cela va disons, donner comme résultat. Voilà, donc nous serons avec vous, on va vous accompagner dans cette démarche. Hein. Chaque fois qu'il y aura une particularité, une nouveauté, on ne manquera pas d'y revenir. Une fois encore, merci et bonne fin de semaine.
Merci beaucoup.